Alors, bon matin à tous. En ce 13 septembre, j'ai choisi un titre qui était actuel, pas plus actuel que ça. J'espère qu'il n'y a personne de superstitieux. Allez, tournez avec moi, on va tourner dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 31. Et aussi, on va toucher au deuxième livre de Samuel, qui en premier chapitre, qui en passant, c'est un livre, mais étant donné les rouleaux, il venait pesant, on fait deux rouleaux avec. Aujourd'hui, vous savez, l'Église, on est des croyants, on est très influencés, puis je ne vous surprendrai pas avec ça, par la culture qui nous environne, qui fait en sorte, par exemple, qu'on dit que c'est nos expériences dans la vie qui nous façonnent, qui nous forment. Eh bien, je vais vous dire, la parole de Dieu nous offre une interprétation bien différente de ça. Entre autres, elle dit que c'est du cœur, de notre vie intérieure, que proviennent nos comportements, nos attitudes, nos réactions, nos agissements, nos paroles. Tout ça, ça vient comme organiquement relié, rattaché à nos pensées puis aux désirs de notre cœur. On aimerait bien ça que ce soit autrement, mais c'est pas la réalité. C'est pour ça que la sagesse nous dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, sans tourner, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous savez, 13, bon, mais parce que aussi, je pourrais faire un jeu de mots, parce que quand on ouvre la parole de Dieu, c'est très important. Mais j'ai choisi de scinder le chiffre 13. On peut faire dire bien des choses aux chiffres, hein, vous savez. Alors, j'ai choisi un épisode triste de l'histoire d'Israël avec trois personnages principaux. C'est ça qu'on va voir. Trois personnages qui vivent de façon très différente, qui ont des comportements, des attitudes, des actions, des paroles totalement différentes. Un événement triste, donc trois comportements, trois attitudes, et aussi trois dénouements très contrastant, très différent. Alors, on va lire, si vous voulez, dans 1 Samuel 31, versets 1 à 6, il est écrit, « Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. » L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. » Il ne devait pas dire ça aussi fort que ça parce qu'il était atteint grièvement. Et celui qui portait ses armes ne voulut pas car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses trois fils qui portaient ses armes et tous ses gens. Donc, Saül et ses trois fils, il y en avait quatre, on apprend qu'il y en avait quatre, mais il y a trois fils qui étaient allés au combat avec lui, sont morts à cette bataille-là. Et donc, c'est important qu'on va s'attarder et qu'on réfléchisse sur cet homme, premièrement, qui est Saül, et c'est lui qu'on va parler. Premièrement, c'est une personnalité, je vous dirais, qui est assez compliquée et assez énigmatique. Faut savoir qu'il était le premier roi d'Israël, je ne vous surprendrai pas avec ça. C'est le peuple qui a demandé un roi, puis Dieu leur a donné un roi pendant 40 ans que Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin, a régné sur Israël. Et lorsque, aussi, ça ne va pas, en passant, c'était pas surprenant, ça n'a pas été une surprise pour Dieu qui demande un roi, puisque déjà Dieu, dans Deutéronome, l'avait dit qu'un jour, il voudrait mettre un roi sur eux, comme les autres qui l'entourent. Et là, ils ont fait ça malgré les avertissements du prophète Samuel, qui les avait avertis sur ce qui venait avec un roi, toutes les règles que le roi amènerait, les taxes et tout ça, puis le service que ça a autour, puis tout ça. Ils avaient averti de tout ça, mais malgré ça, il est écrit dans 1 Samuel 8, versets 19 et 20, il y a trois raisons pourquoi ils ont demandé un roi. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera et marchera à notre tête, conduira nos guerres. Ils voulaient avoir, comme toutes les nations, un roi. Et puis, ils voulaient qu'il soit juge d'entre eux autres et aussi qu'il soit un champion guerrier qu'ils amèneraient dans des guerres contre les ennemis du peuple de Dieu. Alors qu'on sait très bien que Dieu, lui, sa volonté, c'est qu'Israël soit une nation sainte. On en a parlé ce matin, un peuple mis à part, on voit ça dans Exode 19:6, on voit les références au tableau, que Dieu soit leur juge et aussi que Dieu combatte pour eux. Puis il y a un paquet d'exemples au travers de l'Ancien Testament où Dieu a combattu pour Israël. Et Dieu voulait être celui qui combatte pour eux. On se souviendra de Moïse et les Juifs. On se souviendra de Josué à Jéricho, le peuple. Et là, on voit un peu que Saül, au début, l'Esprit de Dieu était sur lui, il était jeune et beau, il était aimé du peuple, il avait une certaine humilité au début, il était petit à ses yeux. Et son nom, parce qu'il a remporté des guerres, et son nom a été célébré, hein. On s'en souvient. Mais il y a une courbe là, de la vie de Saül un peu. À un moment donné, on voit, il était grand, jeune et beau, il était roi. Dieu lui a donné le pouvoir, il était proclamé roi publiquement. Puis par la suite, il a battu les Ammonites, il était champion. Mais il n'a pas écouté les conseils du prophète qui parlait au nom de Dieu, Samuel. Il a désobéi à l'Éternel. Dieu, à ce moment-là, l'a rejeté comme roi. Là, il est tombé jaloux de David, hein. On se souvient des femmes qui criaient, le peuple qui criait, hein, « Saül a frappé ses mille, puis David ses 10 000. » Là, il a pourchassé David, pour lui c'était devenu un aspirant, un ennemi. Il a fait tuer 80 sacrificateurs à un moment donné parce qu'ils avaient nourri David. Et puis aussi, il a été voir une sorcière, puis là il est mort sur le champ de bataille avec ses fils et tout le peuple d'Israël. Ouais, son cœur s'est détourné de Dieu, désobéissant et rebelle, esclave de sa jalousie. Et il voyait d'un mauvais œil, justement, ce que le peuple scandait, criait et chantait pour David. Hein. Fait qu'il s'est dit, ouais, lui, il manque juste le titre de roi, hein, finalement. David, avec ce que les gens disent de lui, il manque juste qu'il fasse roi. Puis, à un moment donné, il est tellement devenu endurci envers Dieu que même Dieu a enlevé son esprit sur lui. C'est différent du Nouveau Testament. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on est scellé par le Saint-Esprit. On peut attrister le Saint-Esprit par nos péchés, mais on est scellé par le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, c'est autre chose. Donc, il dit dans 1 Samuel 16, verset 14, dans le bon, on le voit, « L'Esprit d'Éternel se retira de Saül, qui fut agité à partir de ce moment-là par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Puis, ce qui est impensable est arrivé, vous savez, il est allé consulter un médium, une femme, ni plus ni moins qu'une sorcière, qui évoquait les morts. Assez spécial. À la vue du camp philistin, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Et Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par ses songes, ni par l'urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, j'irai la consulter. » Et il est allé déguisé, on sait l'histoire, puis il a pris d'autres vêtements, puis il est parti avec deux hommes. Puis il est arrivé une nuit chez la femme, justement, pour dire que, à cette époque-là, Samuel était mort et tout Israël l'avait pleuré à Rama. Et donc, puis même à cette époque-là, Saül avait choisi de chasser puis de tuer toutes les sorcières qui vivaient, ceux qui évoquaient les morts dans le pays. Mais effrayé, là, à la vue des Philistins, là, Saül a consulté l'Éternel, mais l'Éternel n'y a pas répondu. L'Éternel l'avait rejeté, mais finalement, c'est parce que Saül ne l'avait pas écouté. Saül a été sourd à la parole de l'Éternel. Alors, ce qu'il voulait, en fin de compte, il voulait aller évoquer Samuel. Là, il n'avait pas de se faire là, la femme, elle avait eu peur. Quand elle a vu arriver, elle avait tout de suite que Saül chassait les sorcières. Donc, elle ne voulait pas que lui... Elle ne savait pas au début que Saül, c'était lui, il était déguisé. Elle ne voulait pas qu'il lui dise, qu'elle dise à Saül, là, il y a une sorcière à telle place. Fait que là, il l'a rassuré. Puis maintenant, quand elle a vu, après coup, que Samuel est venu, elle a dit, ah, c'est Saül. Là, lui, elle a dit, là, elle a eu peur. Puis elle a dit, là, tu me mens. Là, il a dit, non, fais-toi-en pas. Il n'y a rien qui va t'arriver. Puis là, Samuel, qu'est-ce qu'il a dit à Saül? Il a dit, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Puis là, Saül a répondu, mais je suis dans une grande détresse. Là, les Philistins me font la guerre. Et puis, Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a pas répondu, ni par la bouche des prophètes, ni par en songe. Fait que je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Hein? Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Parce que, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel, là, surprends-toi pas. Il dit à Saül, il te traite comme je te l'avais déjà annoncé. L'Éternel, il a déchiré la royauté d'entre tes mains, puis il l'a donné à un autre, à David. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, ben, puis que tu n'as pas, entre autres, il n'avait pas fait sentir à Amalek, c'est un peuple ennemi de Dieu, il n'avait pas fait sentir à Amalek l'ardeur de la colère de l'Éternel, hein, vous savez. Puis il dit, il continue, Samuel dit, demain vous serez avec moi. Autrement dit, demain tu vas mourir, toi puis tes fils, parce que l'Éternel va livrer le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Vous savez, le geste que faisait là, d'aller voir une sorcière en passant, c'est un geste de rébellion de Saül envers l'Éternel. Dans un moment d'amère défaite, on retrouve plus tard Saül qui, après avoir été grièvement blessé, bon, il met fin à ses jours. Et Dieu, sans moi, Dieu, sans toi, il reste Dieu. Mais moi, toi, sans Dieu, on n'est rien. Il faut savoir ça. Et c'est ce qui arrive à Saül. Ah, bien, peut-être qu'en pensant à Saül, on va dire, bien, c'est triste, mais pourquoi cette histoire-là m'intéresserait, moi? Vous savez, je pense que le but ultime de la présence puis de Saül comme roi d'Israël, c'est que ça nous serve d'avertissement pour nous. C'est utile pour ça, entre autres, que cette histoire-là. Puis son histoire qui a fait justement couler beaucoup d'encre dans les Écritures, bien, elle finit tristement. Donc, c'est un avertissement pour chacun de nous, un genre de drapeau rouge. Puis la question ce matin, c'est où en es-tu dans ta communion avec Dieu? Dans quelle direction ta vie se dirige présentement? Est-ce que tu as une joie grandissante dans le Seigneur? Est-ce que tu as un amour grandissant pour Dieu, pour son peuple, pour sa parole? Un plus grand désir de servir Dieu, de lui obéir? Sur quel sentier présentement tu te trouves? Où en es-tu? Où on pourrait être... On a commencé comme enfant de Dieu, communion avec Dieu, on prie, on marche avec Dieu, on va à l'Église, on remporte des victoires sur le péché, puis là, on délaisse la parole de Dieu, on baisse la garde, on est séduit par le péché, on fait des mauvais choix, on prend des mauvaises habitudes, on justifie nos mauvais choix, notre conscience devient insensible, puis notre cœur s'endurcit. Ça, c'est un pattern qui est arrivé, justement, qui arrive à tous ceux, tout croyants, qui délaissent le Seigneur. Ça s'arrive subtilement, tranquillement. Et il est écrit dans la parole de Dieu, dans Hébreux 3, verset 12, sans tourner, « Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner de Dieu, du Dieu vivant, mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Puis deux choses importantes que je lui ai fait ressortir, ça parle à qui? Ça parle à chacun d'entre nous, frères et sœurs. Ça parle à des croyants, à des chrétiens. Le danger, c'est non seulement de se détourner, mais à un moment donné, de devenir endurci par rapport aux choses de Dieu. Où en êtes-vous avec votre marche avec le Seigneur? C'est quand je pêche, là, ma conscience, votre conscience, est affectée. Et ça devient tentant de prendre à la légère l'enseignement de la parole de Dieu, la volonté de Dieu qui enseigne par rapport à ce que, mettons, la façon que vous agissez, la façon que vous pensez, que ce que vous faites, ce que vous croyez agir, ce n'est pas voulu de Dieu. Et donc, c'est tentant de vouloir amoindrir, je dirais, apaiser notre conscience en argumentant puis en justifiant, par exemple, ce que j'ai fait. Après tout, selon moi, c'est pas si pire que ça. Et là, par mes justifications, je veux me donner justement une bonne conscience, alors que ça ne devrait pas être le cas. Ce qu'on fait plutôt à ce moment-là, c'est qu'on se donne une fausse bonne conscience. Puis quand on lit l'histoire de Saül, on s'aperçoit que Saül, il était bon pour rationaliser, bon pour justifier son attitude, ses choix, ses actions, bon pour expliquer ses agissements afin de les rendre acceptables. Il était habile pour tordre la vérité dans le but d'apaiser sa conscience. Puis en ce sens-là, il agissait comme un incroyant. Et si à un moment donné, Saül s'est mis à agir contrairement à la volonté de Dieu, c'est que justement son cœur s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné donc de sa parole, de ses promesses, et puis de sa parole qui est, pour nous, croyants, l'ancre de notre âme. Et quand on coupe cette corde-là, ben, je laisse à mon cœur, je laisse libre d'agir, puis en tenant pas compte, justement, excusez, de Dieu, puis je laisse la place à la méchanceté, hein, notre cœur qui est si mauvais et tortueux. Et ce cœur qui s'est éloigné de Dieu, de ses promesses, ben, il finit par s'endurcir. Ça signifie quoi? Ça veut dire que la sensibilité, donc, qu'on a à l'égard des choses de Dieu par rapport à la volonté de Dieu, ben, elle n'est plus là. On devient insensible. Il y a tout un enseignement qu'on peut tirer de l'histoire de Saül, et je vous invite à le relire à la maison à un moment donné. Où en êtes-vous dans votre communion avec Dieu? Plus près du Seigneur? Vous prenez de plus en plus plaisir en Dieu dans une vie d'obéissance? Ou êtes-vous dans une pente ascendante? Est-ce qu'il y a des coins dans votre vie où votre cœur s'est endurci? Je ne m'étendrai pas trop sur le fait que Saül se serait enlevé la vie. Certains disent ça, que Saül s'est suicidé. On voit dans le texte, il dit qu'il s'est donné... Saül mourut parce que on voit que, en réalité, si on lit le texte en avant, dans 1 Chronique 10, versets 13 et 14, Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David. Donc, tout ça me dépasse, mais à quelque part, par exemple, le comportement de Saül, là, il ne dépasse pas la compréhension et la lecture que Dieu, notre Dieu qui est souverain. Parce que Dieu demeure toujours en contrôle de ses plans, puis il les accomplit aussi au travers même des actions de cet homme, Saül. Alors ici, c'est donc un jugement de Dieu envers Saül. L'Éternel le fit mourir. Dieu prend, par rapport à ce qu'il a vécu, Dieu prend la responsabilité comme juge pour la fin de la vie de Saül. Jugement pour ses actions. Jugement envers Saül qui s'était rendu coupable envers l'Éternel. Alors, voici, c'est pour le premier personnage qu'on a vu ce matin. Il y a deux autres personnages dans le décor. Si vous voulez tourner avec moi au chapitre 1 du deuxième livre de Samuel, il s'agit de celui qui est venu vers David pour lui rapporter la mort du roi Saül et de Jonathan. On ne connaît pas son nom, mais on sait que c'est un Amalécite. Alors, il est écrit après la mort de Saül, David qui avait battu les Amalécites. Il venait juste de remporter une victoire. Hein? C'est assez contrastant. Au moment où ce que Saül mourait au champ de bataille, David lui remportait une victoire contre les Amalécites. Il était depuis 2 jours revenu à Tsiklag, et le troisième jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Il arriva au camp de Saül. Juste pour dire que, bon, on voit les flèches, là, c'est 3 jours de marche entre la montagne de Gilboa et puis Tsiklag, où était David. Il y avait à peu près 120 kilomètres qui séparaient les deux endroits. Et il est arrivé des vêtements déchirés, la tête couverte de terre. Faut savoir qu'à cette époque-là, ça, c'était comme un signe de deuil. Il arrivait devant David avec un genre d'empathie pour ce qui arrivait à Israël, d'une certaine façon. Donc, il arrive là au camp il provenait du camp de Saül. Puis, il est arrivé pour annoncer à David ce qui s'était passé, puis les circonstances qui ont mené à la mort de Saül. Et là, David, là, le texte n'est pas là, mais on le voit dans la parole de Dieu. Si vous continueriez à lire, j'ai mis trois petits points, là. Mais Saül, il pose des questions à cet homme qui arrive le rencontrer. Il lui dit, entre autres, « Que s'est-il passé? Dis-moi donc. » Puis, comment c'est... Puis là, il raconte que Saül était mort. Puis, Jonathan, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Puis là, à un moment donné, citant Saül sur le champ de bataille, l'Amalécite lui raconte ceci. Il est écrit, il me dit, « Qui es-tu? » Saül pose la question à l'Amalécite. Je lui répondis, « Je suis l'Amalécite. » Et il dit, « Approche donc et donne-moi la mort. Quand je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie, je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. » Maintenant, il faut savoir que quand on a lu tantôt le passage dans 1 Samuel chapitre 33, on apprend que cet Amalécite-là rapporte, en fait, c'est un mensonge ou, si vous voulez, une demi-vérité. Parce que Saül l'avait dit à ce moment-là à son porte, celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en transperce de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. » Alors, qu'est-ce qui motive cet homme-là? Qu'est-ce qu'il avait dans son cœur pour le motiver à mentir à David? C'est à quoi ses intentions? Parce que au verset 8 et 9, à la question que lui pose Saül, « Qui es-tu? » Il répond, « Je suis Amalécite. » Et Saül dit, « Approche donc et donne-moi la mort. » On voit ça dans ce qu'il rapporte à David, sachant justement que c'est un incirconcis qui lui fait cette demande-là spéciale. Il est possible qu'il était et sûrement témoin, le témoin de la mort de Saül. En tout cas, il a sûrement été l'un des premiers près du corps de Saül parce que, bon, il est revenu avec le bracelet puis le diadème. Si les Philistins auraient voulu l'avoir, ça, c'est le bracelet et le diadème. Mais c'est quoi qui le motive à aller vers David pour lui rapporter tout ça? Pourquoi, suite au massacre, justement, de l'armée d'Israël, la mort de Saül, bon, pourquoi un Amalécite, peuple d'Amalek, ennemi juré d'Israël, faisant partie du peuple avec lequel David venait justement de combattre et de vaincre. Puis Dieu avait dit, « J'effacerai la mémoire d'Amalek au-dessus des cieux, et puis il y aura une guerre de l'Éternel contre Amalek et de génération en génération. » Il faut savoir qu'à l'époque, ce peuple-là tentait d'empêcher le peuple d'Israël dans le désert de passer, on se souvient de ce chapitre-là. Et Dieu avait prononcé ce jugement-là envers ce peuple-là. Il est écrit dans le bas, « Je vous soumets qu'il voulait tirer avantage de la situation. » Il voulait une récompense, il voulait une certaine reconnaissance de la part de David. Lui, ennemi mortel d'Israël, se présenter devant David avec le bracelet puis la couronne, raconter à David une histoire qu'il a forgée lui-même, pensant qu'en racontant cela, ça ferait en sorte qu'il vous trouve faveur auprès de David, qui était le futur roi. Et non seulement que ça ferait en sorte ça, mais de lui sauver la vie, mais donc d'avoir une récompense, et que David l'inviterait probablement à faire partie de sa cour ou l'admirerait pour son geste. La Malécite, là, il croyait vraiment apporter une bonne nouvelle là, à David. Hein? David, ton ennemi, et puis là, celui qui te pourchassait, là, celui qui te poursuivait depuis longtemps, je te rapporte le bracelet et la couronne. Ça s'appelle vouloir profiter de la situation pour soi-même. Essayer de tirer profit d'une occasion pour gagner du galon, pour se faire un nom, pour essayer de gagner le respect d'une certaine façon, en laissant croire à l'autre, qu'en bout de ligne, tu me dois quelque chose. Tout ça en tordant la vérité, juste un petit peu. Mais on ne se cachera pas. Il faut faire attention à notre cœur. Je ne sais pas si vous avez sûrement raconté des histoires dans lesquelles vous étiez le héros. Puis à chaque fois que vous la racontez, vous en mettez toujours un petit peu plus. Parce qu'on veut que les gens aient une bonne opinion. On améliore l'histoire. Des fois, on raconte des choses, puis on fait des choses dans le but que l'autre soit en dette envers nous. N'est-ce pas? Ça ne vous arrive pas? On est tous capables de chercher à tirer avantage d'une situation. Bon, quelqu'un va vous raconter une histoire, puis elle est vraiment plate, mais vous allez la rire. Quelqu'un d'autre vous la raconterait, vous ne la ririez pas. Mais cette personne-là, y a-t-il quelqu'un que vous voulez impressionner à quelque part dans votre vie, que vous essayez de gagner le respect, mais pas de la bonne façon? Il faut faire attention de ne pas se servir, par exemple, d'aller à l'Assemblée ou à l'Église de notre ministère pour obtenir une réputation, avoir une réputation, se faire un nom, puis après ça, mener les choses qu'on voudrait. Il y a ce danger-là qui existe dans chacun d'entre nous. Quand Dieu écrit « opportunité » sur un côté de la porte, de l'autre côté, il écrit « responsabilité ». Il ne faut pas oublier ça. Alors, notre comportement comme croyant devrait être bien différent. Notre devoir, c'est quoi? C'est de faire confiance au Seigneur. Puis, c'est de lui obéir. Pas chercher à tirer avantage de rien. Pas chercher à dicter ma pensée, comment moi je vois les choses. Parce qu'en réalité, c'est Dieu seul qui est en contrôle, en bout de ligne. De toute façon, il est souverain. Puis, il est juste, bien plus juste que chacun de nous. En plus, il est bon, il est sage, il est aimant, il est gracieux. Puis, on peut se reposer sur lui, sur ses bons soins, en tout temps. Puis, on doit comprendre comme faut notre appel, de lui faire confiance, de lui obéir. Obéir, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, peu importe le péché qui nous environne. Même si quelqu'un d'autre, par exemple, progresse plus, ou est plus visible dans son ministère, par exemple, ou est plus reconnu, mon appel demeure toujours le même. C'est tout pareil. C'est de lui obéir. À lui. Et puis, ce n'est pas mon système moral à moi, ou mes valeurs. Mes valeurs ne devraient pas changer selon les situations qui prévaut. Parce qu'on devrait s'enraciner sur le Seigneur. Puis, j'aimerais vous dire ce matin que jamais j'ai été tenté de dévier de ça, mais je vous mentirais. Il faut faire attention, il y a des moments, c'est très tentant, puis c'est attirant de ne pas respecter cet engagement-là. Et on a tous convaincu un peu d'Amalécite en chacun de nous. Vous savez, on connaît mal notre parole de Dieu lorsqu'on désobéit. Puis en revenant à cette histoire de la Amalécite, lui, il a dû être surpris de la réaction de David, mais il connaissait très mal David. Puis c'est lui, ce troisième personnage-là, qui rentre en scène. David, comment il réagit par rapport à la nouvelle? David, il dit dans 2 Samuel 1:11, il saisit ses vêtements, les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même au rapport de la Amalécite. Puis, donc, David qui amène tous les gens autour de lui à être dans le deuil, à pleurer, parce que le roi et ses fils et le peuple a été battu, le roi est mort. En gros, ce qui répond à la Amalécite, David, il dit, « Qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce qui t'a pris de porter la main sur loin de l'Éternel? » David n'avait jamais osé lever la main sur loin de l'Éternel. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? C'est une parole que David a déjà prononcée. Hein? À deux occasions, on le sait dans l'histoire de David et Saül, hein? Il aurait pu se venger de Saül, hein? Il y a eu deux occasions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, loin de moi par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. On pourrait se poser la question, qui c'est qui sont loin, les loin de l'Éternel aujourd'hui? Mais qu'est-ce qu'il a fait David? Il a préféré agir en laissant Dieu agir. C'est à Dieu la vengeance. Dans 1 Samuel 26, verset 10, c'est à l'Éternel seul à le frapper, a dit David à ce moment-là. Malgré toute la méchanceté que Saül a eue envers David, bien, la Amalécite connaissait très mal David. Jamais David aurait osé porter la main sur loin de l'Éternel. Il a attendu le temps de Dieu que Dieu agisse. Et là, qu'est-ce qui arrive avec la Amalécite? David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? » Et là, David appela l'un de ses gens et dit, « Approche-toi et tue-le. » Et cet homme frappa la Amalécite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, « J'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Alors David, qu'est-ce qu'il fait? Il l'exécute. Sur la base de son propre témoignage, pas nécessairement sur la véracité de ce qu'il rapporte, mais sur son propre témoignage. Comment en es-tu venu à me faire croire que ce qui est mal est bien? Puis dans les versets 15 et 16, David lui dit que tu m'auras porté témoin contre toi, et David donc donna l'ordre de l'exécuter. Et l'exécution commandée elle a été justifiée. Quand on connaît un peu la vie de David, on se rend compte que c'est assez remarquable, la façon qu'il a agi. En tenant compte, justement, je reviens là-dessus, sur la méchanceté que Saül avait témoigné à son endroit, comment il l'avait pourchassé, puis sa jalousie maladive, l'obsession de garder le pouvoir, puis on retrouve David après la mort de Saül. Un moment qui aurait pu être un moment de célébration, là, selon la chair. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout même. Même que pour David, c'est plutôt un temps triste, grande tristesse, rempli d'émotions. Il pleure. Un temps pour pleurer la mort de Saül, de Jonathan, de tout le peuple qui était là. Il pleure cette défaite qui est tragique pour Israël. Puis dans la suite du texte, ce qui surprend, c'est que David fait même un éloge funèbre, un éloge surprenant, comment l'éloge funèbre qu'il fait au sujet de Saül, de Jonathan, bien entendu. Puis là, je pense, puis c'est un cantique qui a été préservé en Israël, je pense qu'ici, le plus bel exemple, à part le Seigneur Jésus, là, de ce que c'est aimer ses ennemis. Et David fait l'éloge. Et puis le livre a été gardé, comme je disais, jusqu'à aujourd'hui. C'est certain que pour nous, c'est difficile de bien saisir toute la portée de ce cantique-là ou de cet éloge-là que David fait, de ces personnes-là qui sont chères à leurs yeux, où à trois reprises, entre autres, il est question de comment des héros sont-ils tombés? L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Et ça le bouleversait de voir ces héros morts au combat, tous ces corps qui ont été mutilés, l'armée qui fuyait, le reste de l'armée qui fuyait devant les Philistins, chose qui n'aurait jamais dû arriver. Mais Saül, dans sa rébellion, il a entraîné littéralement avec lui ses enfants, ses fils et le peuple qui était avec lui. Et donc David pleure la perte de tous ses héros. Saül compris, particulièrement aussi Jonathan. Et puis là, Saül, en tant que futur roi, il disait, allons, c'est là pas à l'ennemi, là, tout ce qui est arrivé. Mais il ne savait pas que déjà, c'était déjà fait, là. Mais il y avait cette délicatesse, il voulait, annoncez pas ça, de peur que ces incirconcis-là, là, ils se réjouissent. Puis il y a aussi cette image que David emploie concernant ce deuil, montagne de Gilboa qui niait sur vous, ni rosée, ni pluie, hein, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Hein. C'est comme un genre de malédiction. Dans ces temps-là, il faut savoir qu'il y avait des fêtes pour les célébrations pour les récoltes dans les endroits agricoles. Mais il y a cette illustration qui vient qu'il n'y a pas de célébration, on ne célébrera pas, on ne fera pas de fête de ça. Des champs qui soient secs, ces champs-là, et qui ne produisent plus. Puis il y a aussi cette illustration à propos du bouclier, des boucliers des héros, le bouclier de Saül, entre autres. Faut savoir qu'à l'époque, on polissait les boucliers avec de l'huile avant que le soldat parte au combat. De cette façon-là, ça empêchait les boucliers de durcir à la longue puis de craquer. Puis aussi, en même temps, en polissant ça, là, vous imaginez, là, quand ils atteignaient la montagne, la colline en haut avec le bouclier qui brillait, là, c'était assez effrayant et apeurant pour l'ennemi. Mais il dit, non, jamais plus le bouclier de Saül allait briller. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus, Saül était mort. Puis David, plus loin, fait encore l'éloge. Entre autres, de Jonathan Saül, il dit, « Dans le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans leur mort. » Et au verset 24, il rappelle au peuple d'Israël, finalement, qu'ils avaient bénéficié matériellement des victoires de Saül et Jonathan. « Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisie, et qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Vous avez profité matériellement pendant un bout de temps. » Tout un éloge. Où est la vengeance là-dedans? Où est la colère? Où est le souvenir de tout le mal que Saül a fait à David? Rien. Rien, parce que pour David, la mort de Saül, là, ça n'avait rien à voir avec le mal que Saül lui avait fait. Parce que ce qui préoccupait, puis ce qui préoccupe David à ce moment-là, c'était pas sa propre personne. C'était pas sa propre gloire. Non, ce qui le préoccupait, c'était la gloire de l'Éternel. Et puisqu'après que la maison de Saül, il a succédé à la maison de Saül, mais on sait qu'il y a eu un plus grand roi qui a succédé après, le roi des rois, qui est de la postérité de David. Alors, ce qui comptait le plus pour David, c'était quoi? C'était la gloire de Dieu, pas la sienne, la gloire de Dieu. Il dit, je suis, en parlant de Jonathan, je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir et ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Là, il faut faire attention. Parce qu'il y a bien des gens qui ont interprété ça comme ton amour remplace celui des femmes. Mais c'est surpasse, dans le sens que c'était une grande amitié qui existait entre les deux, qui n'avait jamais cessé. Ils avaient fait alliance ensemble. Il y avait une amitié profonde puis loyale entre les deux, malgré que Jonathan était le fils de Saül. C'était pas une attirance sexuelle. Vous savez, un ami, c'est quelqu'un qui nous connaît bien, mais qui nous aime pareil. Et là, David revient sur l'éloge. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs âmes se sont-elles perdues? En fin de compte, pour David, ce qui est arrivé, c'était l'impensable pour Israël. Il y a beaucoup de gens qui disent, hein, le cœur de l'homme, là, il se révèle dans ce qui le réjouit, puis aussi dans ce qui l'attriste. Et là, ce qu'on vient de prendre connaissance, là, c'est du cœur de trois personnages qui nous sont révélés dans la parole de Dieu. Saül, loin de Dieu, désobéissant, l'Amalécite, lui qui cherche à profiter de la situation, mais trouve le jugement du futur roi, tandis que l'autre, auparavant, avait trouvé le jugement de Dieu, le roi rejeté. Et David, l'homme au cœur selon Dieu, cherchant quoi? La gloire de Dieu. Il sera un roi. Alors, qui règne dans ton cœur? Où est ton espérance? Qu'est-ce qui affecte tes pensées, tes paroles puis tes actions? Où est ton trésor? Où est ton cœur? Et quand on pense à la mort de Saül, ce roi sur la montagne de Gilboa, moi, ça ne peut pas faire autrement que nous faire penser à un autre roi qui, lui, il a volontairement donné sa vie sur une autre montagne, à Golgotha. Puis sa mort, à lui, ça n'a pas été un acte de rébellion, mais c'était un acte d'obéissance envers Dieu, de soumission. Jésus s'est volontairement soumis au plan et à la volonté de Dieu. Et en plus ça, sa mort, ce n'était pas une défaite. C'est une victoire pour nous. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit ça à la croix, en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Oui, sa mort, c'est une victoire. Puis quand on place notre confiance en notre Seigneur et Sauveur, en sa parole, parce qu'on lui obéit, ça, ça le glorifie. Ça, ça l'honore. Ça, c'est vivre pour sa gloire. Alors, prions Dieu afin qu'il nous aide dans cette marche ici-bas, afin que, tout comme David, on recherche à glorifier, à obéir Dieu, sachant, entre autres, que notre Sauveur, il est vivant et qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et qu'il est notre espérance. Vous savez, je ne veux pas m'allonger trop, mais on vit présentement, si je prends encore mon chiffre 13, là, on vit un épisode dans l'histoire de l'Assemblée du Cap assez spécial. Hein, on a vécu ça, le feu, puis tout ça, puis la reconstruction, puis des obstacles qui arrivent. Il faut savoir que quand il y a un chemin, il n'y a pas d'obstacle. Souvent, un chemin, il n'y a pas d'obstacle, ça mène nulle part. Là. C'est pas grand. Puis la rivière qui coule, le petit ruisseau qui coule, là, s'il n'y avait pas de roche, on n'entendrait pas le chant de la rivière. Fait que des obstacles, il y en a. Mais nous, là, quelle attitude qu'on a vis-à-vis ça? Est-ce qu'on se plaint est-ce qu'on est impatient? Oui, on est tous capables de faire ça. On a des pensées qui nous viennent là. Il faut se mettre devant le Seigneur pour les moments d'impatience. Ah, j'aurais fait ça autrement. Ah, moi, c'est pas ça que j'aurais fait. Ah, on peut choisir de ce chemin-là. Être amer ou... tu sais? Ou on peut profiter de l'occasion pour se faire un héros, tu sais. Ou, tout simplement... avoir la bonne attitude, une attitude semblable à David, un cœur qui, s'encourageant les uns les autres, continuant à regarder. Hein, si on veut arriver au but, il faut garder les yeux fixés au but. Il ne faut pas commencer à regarder les obstacles, sinon on s'éloigne. Alors que le Seigneur nous guide dans la suite des choses, entre autres pour l'Assemblée, qui nous aide à prendre les bonnes décisions, puis qui nous accompagne là-dedans, comme on s'attend à lui, de toute façon. Il est écrit aussi, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31. On va terminer par la prière. Oui, notre Dieu et Père, tu nous as révélé, entre autres, par le biais de ta parole, ces trois personnages bien différents. On est bien faibles comme eux sans toi. Alors, on a besoin de ton aide à chaque jour. Que tu guides nos pas, que tu continues à toucher nos cœurs, à le changer, à le transformer par ta parole, par ton esprit. Que tu nous rendes obéissants, que tu nous donnes des cœurs attachés à ta personne, soumis, obéissants, des cœurs qui t'aiment et qui t'adorent pour ce que tu es, pour ce que tu as fait. Oh Seigneur, on appelle ta bénédiction sur l'Assemblée. Et on te remercie encore pour ta présence et tes bons soins et pour ton Fils bien-aimé qui est vivant après avoir donné sa vie pour nous. Sépare-nous avec ta bénédiction au nom de Jésus. Amen.